Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 14 avril avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence par un coup de poker sur Twitter.
Oui, c'est le nouveau pari d'Elon Musk. L'homme le plus riche du monde entend racheter 100% du réseau social pour la modique somme de 41 milliards de dollars. Le patron de Tesla plaide pour une liberté d'expression totale sur Twitter sans modération. Explication dans un instant depuis Washington. Quand Marine Le Pen cherche à conjurer une campagne plus compliquée que prévu. La candidate du RN est ce soir à Avignon devant ses partisans. Opération séduction en terrain conquis, nous y serons. À suivre aussi des étudiants perdus face au second tour et qui ont décidé d'investir la Sorbonne à Paris depuis hier. La vie qui reprend progressivement dans les rues de Kiev. Reportage, la Grande-Bretagne qui passe un accord avec le Rwanda pour renvoyer les migrants illégaux. Et puis les archéologues de Notre-Dame qui dévoilent leurs secrets après 2 mois de fouilles.
À 18h15, un jour dans le monde en Allemagne ce soir qui se divise au sein de sa coalition sur les armes à fournir à l'Ukraine. Après s'être aussi divisé sur le gaz, et ces débats-là ne sont pas finis, l'Allemagne qui est peut-être en train de repenser intégralement son modèle économique et sa position européenne également. On voit ça avec notre premier invité. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, on se penche sur l'avenir du PS et de LR qui ont sans doute encore du mal à se remettre de la claque de dimanche soir. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Quelle refonte suivant quel corpus idéologique, sachant qu'il reste une assise territoriale pour l'un comme pour l'autre et qui précisément fait défaut aux trois partis arrivés aux trois premières places du premier tour. À vos questions, ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc une offre à prendre ou à laisser.
Et ça n'a rien d'un bluff. Elon Musk, déjà patron de Tesla et de SpaceX, à la tête de la première fortune mondiale. Elon Musk est donc déterminé à racheter intégralement l'un des plus importants réseaux sociaux du monde. J'ai nommé Twitter et ses messages courts de 240 caractères maximum. 436 millions d'utilisateurs dans le monde. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir Sébastien Legénie.
Correspondant à Washington, Elon Musk était déjà actionnaire de Twitter, mais là, il veut en prendre le contrôle à 100%.
Ouais, 43,4 milliards de dollars en cash. L'offre est non négociable, précise le milliardaire dans son courrier envoyé au président du réseau social à l'oiseau bleu. Cela représente 54,20 $ par action et cela valoriserait Twitter presque 6,5 milliards de plus qu'au cours actuel. L'annonce fait grimper l'action en ce moment à Wall Street de plus de 2%. Elon Musk propose de mettre la main sur le groupe californien une semaine après y avoir fait son entrée. Il a acheté plus de 73 millions d'actions la semaine dernière et il est désormais l'actionnaire principal de Twitter avec un peu plus de 9% du capital. Il a ensuite refusé d'intégrer le conseil d'administration, conseil qui dit aujourd'hui qu'il va examiner son offre avec attention.
Et Sébastien, au-delà de cette OPA, quel est le projet d'Elon Musk en devenant le seul actionnaire de Twitter ?
Alors d'abord, il y est très actif sur Twitter. Il a près de 82 millions d'abonnés. C'est à peu près ce qu'avait Donald Trump quand il en a été banni après l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Ensuite, Elon Musk pense qu'il, et il l'écrit aussi, que Twitter a un potentiel formidable et il promet qu'il va le débloquer, ce potentiel. Elon Musk explique également qu'il y a investi à cause du rôle majeur que joue la plateforme pour la liberté d'expression à travers le monde. Ce sont ses mots. Il dit que c'est un impératif sociétal en démocratie. Et puis, accessoirement, 43 milliards, c'est une somme, mais Musk est l'homme le plus riche de la planète, vous l'avez rappelé. D'après Forbes, fortune personnelle de près de 274 milliards de dollars. De quoi faire enrager Trump, dont on parlait à l'instant, qui lui n'a plus accès aux réseaux sociaux et qui galère à lancer sa propre plateforme, Truth Social. Elle ne fonctionne toujours pas techniquement et 3 de ses dirigeants ont quitté le navire ces derniers jours.
Sébastien Paour, en direct de Washington. Et puis au chapitre des mastodontes d'Internet, les négociations salariales chez Amazon France sont tendues. La direction propose 3% d'augmentation, une offre jugée inadmissible par les syndicats qui demandent au minimum 5%.
L'un cherche la proximité, l'autre cherche à se présidentialiser.
Oui, suite de la campagne d'entre-deux-tours d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, le président candidat qui ne cesse d'aller au contact de la population depuis le début de la semaine, le Nord-Pas-de-Calais, le Grand Est et maintenant le Havre, ville de son ex-premier ministre Édouard Philippe, mais où les insoumis sont arrivés largement en tête, déplacement sur le thème de l'écologie, en particulier des éoliennes en mer. Emmanuel Macron veut en construire, alors que Marine Le Pen entend démonter les éoliennes terrestres, une aberration selon le candidat président. Marine Le Pen, elle, sera en meeting d'ici une demi-heure à Avignon, qui a aussi voté Mélenchon au premier tour, mais dans un département, le Vaucluse, qui a voté pour elle à près de 30%. Premier grand meeting d'entre-deux-tours, 4 à 5 000 personnes attendues au parc des expositions, où vous vous trouvez. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Un meeting pour se rassurer, Élodie, après avoir été bousculée sur le fond ces derniers jours.
Oui, et vous l'entendez derrière moi, en attendant le début de meeting, c'est une playlist festive qui résonne, le DJ chauffe l'ambiance et les militants venus de toute la région, de ce Vaucluse notamment, où la candidate est arrivée en tête dimanche soir, vous l'avez dit, une immersion au creux des siens, donc pour clore une séquence mitigée, émaillée de fausses notes, une conférence diplomatique hier où elle a prôné un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie après la guerre, une autre conférence mardi à Vernon sur la démocratie où elle s'est accrochée avec les journalistes assumant de choisir qui rentre à ces événements. Bref, ce soir, il s'agit de conjurer cette séquence. Face aux accusations d'Emmanuel Macron qui l'accuse de dérives autoritaires, Marine Le Pen va répliquer, tenter d'échapper à la rediabolisation en remettant le fond sur le devant de la scène, explique un conseiller, et faire certainement de nouveaux clins d'œil à la gauche dans une ville, Avignon, qui, elle, a placé Jean-Luc Mélenchon en tête dimanche.
Élodie Forêt avec Marc Garvenès en direct d'Avignon. Et pendant que les deux candidats font campagne, les étudiants, eux, s'invitent dans cet entre-deux-tours. Plusieurs écoles et universités sont mobilisées depuis hier. C'est le cas notamment à la Sorbonne, dont une partie est occupée depuis 24 heures par plusieurs centaines de personnes. Quelques tensions à noter ce soir avec les forces de l'ordre. Des étudiants déboussolés, Victor Vasseur, par un second tour qui ne les représente pas.
Aucune hésitation, non à Le Pen et à Macron, peut-on lire sur une banderole pendue depuis une fenêtre de la Sorbonne. Mais dans le rassemblement, les discours sont beaucoup plus mesurés, comme avec Anouk, 19 ans.
Je suis mitigée parce que j'aurais bien aimé ne pas voter, mais là, ne pas voter, c'est un peu voter pour Marine Le Pen, donc c'est pas quelque chose que je trouve envisageable et... Du coup, je suis partagée.
Ici, de nombreux étudiants ont voté Mélenchon dimanche dernier. Et c'est résigné qu'ils mettront dans l'urne au second tour un bulletin au nom d'Emmanuel Macron.
Je vais quand même aller voter Macron. Ça me crève le cœur, mais je vais y aller quand même. Ah, parce que c'est pas le second tour que j'espérais, mais je pense que c'est pas des dangers comparables pour la France.
Pour Mathieu, 22 ans, la déception du premier tour est passée. Place à la réflexion.
Mon choix n'est pas encore vraiment fait. La question devient difficile à traiter avec soi-même, entre conviction et volonté... d'empêcher la catastrophe. Hein.
Le ni Le Pen ni Macron, scandé plusieurs fois par la foule, est aussi une possibilité. Rémi, 18 ans, soutient cette position.
Moi, personnellement, je m'abstiendrai. J'estime qu'aucun des deux candidats ne me parle.
Car il n'est pas assez question d'écologie, rétorquent plusieurs jeunes. Ils regrettent le manque de mesures concrètes pour la jeunesse.
Le reportage de Victor Vasseur, par ailleurs à Sciences Po Paris, les entrées principales ont été bloquées aujourd'hui par une centaine d'étudiants. Blocage aussi hier du campus de Sciences Po à Nancy. Une manifestation contre l'extrême droite est enfin prévue ce samedi partout en France, à l'appel des mouvements de jeunesse, des syndicats et de plusieurs mouvements de défense des droits de l'homme.
50e jour de guerre en Ukraine et des combats qui s'étendent sur le territoire russe.
C'est ce qu'affirme Moscou en tout cas ce soir. Des hélicoptères ukrainiens auraient attaqué deux villages russes à 40 km de la frontière avec l'Ukraine. Démenti catégorique de Kiev qui accuse le Kremlin de vouloir alimenter l'hystérie anti-ukrainienne en Russie. Les Ukrainiens qui en revanche affirment avoir tiré des missiles de croisière sur le vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire, le Moskva, et ses 186 mètres de long en flammes ce matin. Le personnel évacué, le feu est désormais maîtrisé, le bâtiment n'a pas coulé selon les Russes, qui démentent toute attaque ukrainienne et parlent d'explosion de munitions à l'intérieur du navire. Au nord du pays, à Kiev, les habitants se sentent désormais relativement épargnés par les combats et c'est le retour à une vie presque normale. Écoutez le reportage sur le marché de Podil avec Faustine Calmel.
Tania, quand t'as rouvert le marché ? Mardi, c'est ça ?
Depuis ce matin seulement, Sergueï présente à nouveau ses morceaux de viande sur son étal. Et même s'il n'a pas encore beaucoup de clients...
Ce monsieur m'a acheté un petit morceau de lard. Qu'est-ce que je vais dire? Les gens sont revenus, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, vous comprenez?
Un peu plus loin, Yulia choisit quelques légumes. Cette juriste est rentrée il y a tout juste une semaine de son exil dans l'ouest de l'Ukraine.
Nous n'avons pas notre rythme de vie habituel, comme vous dites, mais on continue de travailler. Les enfants suivent leur cours d'école sur Internet. Je vais acheter du chou, peut-être quelques tomates et des salades, parce que c'est le printemps et on a besoin de sentir le printemps.
Et même si la guerre reste proche dans toutes les conversations, Vitaly et Victoria font ressurgir un peu de légèreté.
On travaille avec les ballons gonflables. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de fêtes en ce moment, mais les gens veulent faire plaisir à leurs enfants et ils commandent des ballons. Ça va à peu près. On a mis les guirlandes gonflables aussi à l'entrée du magasin.
Des ballons jaunes et bleus pour dire encore leur fierté d'être ukrainiens, eux qui veulent croire que leur ville Kiev ne sera plus touchée par les tirs russes.
Le reportage à Kiev de Faustine Calmel et de Jérémy Thuil. En Grande-Bretagne, Boris Johnson muscle sa politique migratoire. C'est maintenant l'armée, la Royal Navy, qui va contrôler les bateaux des migrants dans la Manche et plus les gardes-côtes. Et puis, autre axe de ce nouveau programme, renvoyer directement au Rwanda les migrants arrivant illégalement au Royaume-Uni, quel que soit leur nationalité, le temps de traiter leurs demandes. Les précisions à Londres d'Evelyne Vin.
Avec ce nouveau partenariat, les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni, par la Manche principalement, pourront être envoyés dans des centres au Rwanda, à 10 000 km de Londres. Boris Johnson, ce jeudi matin.
Nous ne pouvons pas laisser prospérer un canal parallèle d'immigration illégale. Le plus tragique des formes d'immigration illégale, c'est bien le fait de capitaliser sur la misère humaine, comme le font les passeurs dans la Manche. Et c'est ce que nous voulons faire cesser.
Les ONG et l'opposition dénoncent le choix du Rwanda, dont le bilan en matière de droits humains est critiqué par l'ONU. Le Premier ministre, qui a reçu en début de semaine une amende pour une fête à Downing Street pendant le confinement, a également envoyé des signaux forts envers l'électorat conservateur.
Nous ne pouvons plus demander aux contribuables britanniques de signer des chèques en blanc pour tous ceux qui veulent venir vivre ici. Les Britanniques ont voté, plusieurs fois, pour le contrôle de nos frontières. Pas pour les fermer, mais pour les contrôler. Le Brexit nous a déjà permis de reprendre le contrôle de la migration légale. Aujourd'hui, nous reprenons le contrôle de l'immigration illégale.
Le partenariat est estimé à 150 millions d'euros par an et concernera uniquement les hommes seuls. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
En bref, toujours à l'étranger, un complot contre le gouvernement en Allemagne, démantelé en Allemagne. Un groupe de militants anti-vax et d'extrême droite a été arrêté alors qu'il projetait des attentats et notamment l'enlèvement du ministre de la Santé.
Et puis on termine avec les trésors enfouis sous la cathédrale Notre-Dame.
Oui, les archéologues fouillent sous la cathédrale depuis 9 semaines maintenant. On vous a déjà parlé ici à France Inter de la découverte de ce sarcophage en plomb du Moyen-Âge. Mais ce n'est pas la seule découverte, Delphine Evenou, qui enthousiasme les archéologues.
Oui, ils n'ont pas eu à gratter beaucoup sous le dallage du 19e siècle, 10 à 15 cm seulement, et voilà des centaines de fragments de l'ancien jubé de Notre-Dame. Le jubé, c'est cette paroi sculptée qui séparait le cœur de la nef, le clergé, des fidèles. Jubé détruit au début du 18e siècle, quand les pratiques liturgiques ont évolué. Christophe Beignet, le responsable de ces fouilles à l'INRAP.
Ça représente les scènes de la Passion du Christ, qui sont sculptées dans un calcaire d'ailleurs très dur. Et donc nous, on a retrouvé effectivement des visages, des mains, des torses, beaucoup d'éléments de décor végétal. Et on a aussi retrouvé beaucoup d'éléments qui représentent des édifices religieux. La peinture est restée. Il doit y avoir de la peinture originelle, mais il y a aussi après des reprises de peinture au fil des siècles.
Une polychromie exceptionnelle qui va permettre d'en savoir plus sur ce jubé resté jusque-là mystérieux.
À travers cette fouille, on documente deux aspects complémentaires. C'est à la fois le jubé en lui-même et ce qu'il représente, ce qui va apporter une contribution inédite à l'histoire de l'art de ce jubé. Mais aussi, on va pouvoir documenter le geste même de cette destruction et de cet enfouissement.
Ces fragments ont-ils été enterrés sur place pour des raisons pratiques ou bien par respect pour l'iconographie religieuse comme une inhumation? Voilà quelques-unes des questions qu'ouvrent ces fouilles préventives qui étaient limitées aux 120 mètres carrés de la croisée du transept. Imaginez, Sébastien, la frustration des archéologues.
Et merci Delphine Evenou. Et pour revenir sur ce sarcophage malgré tout fameux de plomb, il sera bientôt ouvert à l'Institut médico-légal de Toulouse et il devrait livrer ses secrets dans le respect, dit-on, de la législation sur les restes humains.
Eh bien, dites-moi, merci beaucoup Sébastien Legénie pour le journal. Vous revenez dans un tout petit instant pour Sous les radars. Vous nous parlerez notamment de la fin de La Liberté, le journal d'Alger.